enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Acte 24. Un texte autour de l'arrestation de Paul, tout juste avant qu'il soit, avant qu'il ne soit envoyé à Rome. Paul a passé quelque temps à Césarée, et puis c'est un gouverneur romain du nom de Félix qui va l'écouter. Et on retrouve cet ami Félix au verset 24. Acte 24, verset 24. Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme Drusille qui était juive. Il fit appeler Paul et lui demanda de leur parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à expliquer comment vivre pour être juste aux yeux de Dieu, lorsqu'il parla de la maîtrise des instincts et du jugement à venir, Félix, visiblement mal à l'aise, lui dit « Bon, maintenant ça suffit pour aujourd'hui. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Par ailleurs, il nourrissait secrètement l'espoir que Paul lui proposerait de racheter sa liberté par une forte rançon. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent et s'entretenait avec lui. 2 années s'écoulèrent, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus, et pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, il partit en laissant Paul sous les verrous. On retient le verset 25 et la réponse de Félix. Lorsque Paul l'interpelle profondément, il dit « Maintenant ça suffit, tu peux te retirer, quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Quand j'en aurai le temps. Voyez-vous, on a là affaire à un gouverneur romain marié à une juive face au plus grand prédicateur de l'époque. Un homme qui partageait l'évangile de tout son cœur et pour la cause de l'évangile avait beaucoup souffert et va encore beaucoup souffrir. Mais au moment où Félix, non pas le chat, mais le gouverneur. Ah, vous êtes là, c'est bien, je suis content. Au moment où Félix, le gouverneur, est appelé à prendre une décision, il la balaye du revers de la main. Et il dit, quand j'en aurai le temps, je te rappellerai. Voyez-vous, ce texte nous apprend diverses choses, et sur Dieu, et sur l'homme, et sur l'avenir de l'homme. Tout d'abord sur Dieu. Eh bien, ça nous montre que Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde, et Dieu a tant aimé notre ami, le gouverneur Félix, qu'il a envoyé Paul lui prêcher l'évangile. Félix n'était pas n'importe qui. Félix, dans les livres d'histoire, notamment de Flavius Joseph, est connu comme un homme fourbe, un homme cruel, un homme incompétent, mais un homme que l'Évangile décrit comme un homme aimé de Dieu. Félix était un homme fourbe, parce que voyez-vous, à un moment donné, on peut s'interroger si Félix a gardé Paul pour entendre l'Évangile, ou s'il a gardé Paul pour essayer de se tirer de l'argent. Il était corrompu. Le bakchich l'intéressait énormément. En français moderne, maintenant ça s'appelle le chocolat. J'ai un ami qui a une entreprise à Paris, et il me dit, c'est incroyable, tous ces gens qui viennent travailler, non pas pour de l'argent et un salaire honnête, mais pour du chocolat. Oui, Félix était un homme corrompu, un homme fourbe, un homme peu scrupuleux. Il a laissé quand même poireauter notre ami Paul pendant 2 ans en prison. Certainement une liberté conditionnelle, puisque sa famille ou ses amis pouvaient venir le voir. Mais n'empêche, Paul a poireauté 2 ans en prison parce qu'il a essayé d'extorquer des fonds, parce que Félix a essayé d'extorquer des fonds à l'ami Paul. Félix est un homme cruel, nous dit Flavius Joseph, parce que là, on voit qu'un épisode, quelques lignes sur lui dans l'Évangile. Mais cependant, il est connu comme un homme cruel. Parce que dans le livre d'histoire, on nous apprend qu'à un moment donné, il a littéralement fait exécuter les Juifs sommairement. Un jour, il a fait disparaître 400 personnes d'un seul jugement sommaire. Et puis enfin, notre ami Félix avait été nommé par l'empereur Claude, et là encore les livres d'histoire nous apprennent qu'il était tellement incompétent que Néron l'a fait remplacer par le suivant, Festus. Mais cependant, quelle qu'ait été la qualité ou l'absence de qualité de cet homme-là, eh bien Dieu aimait cet homme-là. Et visiblement, malgré tout, on peut interpréter que cet homme-là était intéressé par l'évangile. Donc, verset plus haut, verset 22, il est dit, quand Paul se défend par rapport à la doctrine de la résurrection des morts, verset 22, il est dit que Félix était très bien renseigné au sujet de la doctrine chrétienne. Donc Félix était intéressé, il cherchait à connaître l'évangile. Il voulait savoir, il sentait bien au fond de lui-même que là il y avait quelque chose qu'ailleurs on ne trouvait pas. Mais cependant, au moment où il aurait fallu décider, au moment où il aurait fallu prendre une décision profonde, il répond « quand j'en aurai le temps ». Quand j'en aurai le temps. Et Dieu va tout faire. Dieu va être patient avec lui. Je ne sais pas, on peut voir ça d'une autre perspective et se dire, mais Dieu a laissé mijoter Paul pendant 2 ans dans les geôles de Césarée pour que cet homme entende parler de l'évangile. Le nombre de fois où Dieu est patient avec nos propres vies. Où il nous parle et nous reparle de diverses manières. Où il nous interpelle dès notre jeune âge de diverses manières. Et puis il revient à la charge. L'ami Job dit que Dieu parle 2 à 3 fois, mais l'homme n'y prend point garde. Je suis certain qu'avant d'être arrivé ici, chacun de nous aurait à raconter un cursus où plus ou moins Dieu s'est fait connaître, s'est révélé. Simplement. Moi j'avais 10 ou 11 ans, quand, en sortant d'un confessionnal, je savais, Dieu m'avait pardonné. Et il y avait une joie que je n'avais pas expliquée. Elle n'était pas d'ordre humain, mais d'ordre spirituel. Et plus tard, dans ma naïve jeunesse à l'époque, je m'inventais des péchés pour aller les confesser, parce que je me disais, après ça, je serais tellement mieux. Félix a eu des occasions en or. Et à un moment donné, aucun livre d'histoire ne nous apprend qu'il a pris une décision de suivre le Christ sérieusement. Et ce soir, je nous pose la question, où en sommes-nous ? À la fois ceux qui sont là pour là ou les premières fois, comme ceux qui sont là depuis fort longtemps. Où en sommes-nous dans notre marche avec Dieu ? Peut-être qu'il nous a interpellés pour plus de sainteté dans notre vie. Peut-être qu'il nous a réveillés suffisamment tôt pour nous amener plus profondément dans la prière. Et puis on a répondu, Seigneur, demain. Et puis demain, c'est devenu après-demain, c'est devenu la semaine suivante, et puis c'est devenu un style de vie, et à la fin, on est devenu sourd aux appels de Dieu. Parce que voyez-vous, on n'aura pas toujours le temps. Et l'enjeu est de taille, c'est mon deuxième point ce soir, l'enjeu est de taille. Si Dieu parle tellement longtemps à Félix, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Et l'enjeu, c'est le salut éternel de son âme. À un moment donné, un jeune homme riche vient au pied de Jésus dans Marc 10, verset 17, et dit « Ô maître, toi qui es bon !» « Dis-moi, que puis-je faire pour gagner la vie éternelle ?» Donc on a une réponse de Jésus qui lui dit « Mais observe la loi, tu ne tueras point, tu respecteras père et mère. » Et il dira « Mais j'ai fait ça depuis ma tendre enfance. » Il avait une religion. Il aurait pu dire, comme beaucoup de contemporains disent, « Je n'ai ni volé, je n'ai ni menti, enfin pas trop menti. » J'ai pas trompé ma femme ou mon mari. Mais voyez-vous, Jésus va plus loin que juste avoir une vie socialement correcte ou religieusement correcte. Ce que Jésus cherche, c'est notre cœur. Et ce soir, je ne vous parle pas de suivre une forme de religiosité, mais je vous parle de suivre quelqu'un qui appelle votre cœur, qui veut votre cœur, le centre de vos décisions, et qui souhaiterait prendre la place du chauffeur dans votre vie, parce qu'il a une meilleure destinée que celle que vous pensez. Et ce jeune homme va dire, Seigneur, que dois-je faire? Il va dire, mais j'ai fait tout ça depuis ma tendre enfance, et Jésus voit le cœur de ce garçon. Et il va poser une question fondamentale, enfin, il va lui dire une question fondamentale, non sans avoir au préalable mentionné qu'il l'aima. Et il te manque une seule chose, c'est que tu sois libre de tout ce qui te tient tellement captif. Tu t'es attaché à ta richesse. Va avant tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Et ce jeune homme va s'en aller tout triste. Tout triste. Parce qu'il avait de grands biens, est-il marqué. Bien-aimé, Jésus dit ça autrement, à un autre endroit, il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Allô? Que vous servirait-il de... Pardonnez-moi d'être un peu cru ce soir. Que vous servirait-il de connaître toutes les femmes du monde si vous perdiez votre âme? Il y a des gens qui se disent, ah, je suis chrétien, et il y en a qui sont chrétiens, et qui ont fait le cheminement inverse, qui se disent, ah, mais je suis coincé, ah, mais je suis ici, je veux vivre, je veux connaître le monde. Excusez-moi, mais si vous avez connu tous les plaisirs du monde, à quoi ça vous sert si vous perdiez votre âme ce soir? Parce que l'enjeu, c'est votre vie éternelle, et votre temps ne vous appartient pas, et demain n'est pas assuré. Ce soir, nous sommes là, tranquillement assis, au chaud, tout va bien. On est tranquille, il n'y a pas de danger, pas de menace, mais nous ne savons pas qui demain sera parti d'entre nous. Et des fois, à force de nous voir et de nous revoir et de se dire ça va comme ça, eh bien, on peut être gagné par l'idée que ça va continuer longtemps comme ça encore. Oui, on sait qu'un jour ça va arriver, mais la mort c'est pour plus tard. Et quand vient la mort, alors c'est trop tard. Je me souviendrai à vie d'une dame, je tairai le nom. Un frère m'avait demandé de la suivre, c'est une cliente à son entreprise. Et puis elle était très malade déjà quand je l'ai rencontrée. Et j'ai essayé d'amener au Seigneur, je l'ai visité plusieurs fois à la maison. Et puis toujours à nouveau, elle, quand il fallait décider, elle, comment je veux dire, elle esquivait, elle trouvait des, non pas des excuses, mais des raisons qui était peut-être un peu plate, qui manquait de teneur. Et puis, je l'avais perdu de vue, et voilà qu'on me rappelle, quelques temps plus tard, on me dit, écoute, elle est à l'hôpital, il faut y aller aujourd'hui parce qu'elle est très très mal. Et le frère m'avait dit, écoute, apparemment elle est en train de mourir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu une dame qui était tout, sauf une dame qui avait l'apparence de mourir. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais où est la mourante? Tellement elle avait l'air bien. Mais sachant ce que je savais, je me suis mis à côté d'elle. Il y avait une autre personne à côté qui avait l'air très très dédaigneuse comme ça. Et cette petite dame du fin fond du Sungo, quelque part se gênait. Alors je me suis mis du côté de la fenêtre, tout près de son oreille, et je lui parlais à voix basse. Et je lui ai dit, madame, je suis venu vous prier. Oui, je sais, c'est vous le pasteur. Ça me fait du bien. Et puis, je lui dis, est-ce que maintenant vous souhaitez prier la prière ou on va vers le Seigneur? Elle me dit, quand je serai rentré à la maison. Alors, j'ai pas insisté d'abord, j'ai parlé de la pluie, du beau temps, puis j'ai essayé de glisser dans le discours que peut-être il y avait deux options. Il y avait celle de rentrer, celle de ne pas rentrer. Et puis elle m'a écouté. Puis une seconde fois, je lui ai dit, est-ce que peut-être maintenant on pourrait prier ensemble? Elle me regarde et me dit, monsieur le pasteur, quand je serai rentré. Et puis je me suis dit, je ne vais pas la lâcher comme ça. Hein. Ah non, hein. Je laissais passer 5-10 minutes, mais je me voyais aussi qu'elle était fatiguée. Et une dernière fois, je me suis dit, Seigneur, maintenant, donne-moi l'occasion. Et une dernière fois, je lui ai posé la question. J'ai rempli toutes les précautions pour que l'autre dame à côté n'entende pratiquement pas ce que j'allais dire, pour ne pas la gêner. Et là, une troisième fois, elle me dit une phrase terrible, elle me dit, « Pasteur, quand je serai rentré, je vous inviterai à venir me voir. » La même nuit, elle est partie dans l'éternité. La même nuit. La même nuit. Vous savez, on ne sait pas toujours quand la mort frappe. On a trouvé sur une tombe l'épitaphe suivante. Je m'attendais à ce que la mort vienne, mais pas si vite. À vous tous qui êtes là, et moi aussi, je nous souhaite longue vie. Vous pouvez devenir centenaire, fassiez de belles choses pour le Seigneur. Alléluia! Mais nous ne savons pas quand les choses viendront, quand l'heure frappera. Félix a dit, quand j'aurai le temps. Et des multitudes de personnes iront dans les ténèbres éternelles parce qu'elles auront dit, quand j'aurai le temps. Hein, quand on a 20 ans, on n'a pas le temps. Hein. On a tellement à faire. Études, courir le monde, et d'autres choses encore. Et puis après, on a 30 ans, 35 ans. On a la maison, les enfants, l'épouse, le travail, la carrière. On n'a pas le temps, pas le temps. Quand je serai en retraite, et puis arrivé à la retraite, c'est incroyable. Alors les retraités, eux, ils me battent, ils me renversent. Ils n'ont jamais le temps, les retraités. Parlez à un retraité, vous allez voir, il est toujours occupé. Hein. Mais alors, il est archi occupé. C'est incroyable. Plus tard, frère, plus tard, plus tard. Et puis un jour, c'est malheureusement trop tard. Trop tard parce que là aussi, eh bien, à force de refuser, on s'est endurci. Et à la fin, on se dit, je m'arrangerai avec celui là-haut. Le riche qui avait bâti des greniers plus grands parce qu'il fait une bonne récolte. Dans son cœur, il s'est dit, j'ai fait une bonne récolte. Maintenant, je vais faire des greniers encore plus grands. Je vais les remplir. Je dirai à mon âme, maintenant, réjouis-toi, mange, bois et jouis de ta vie. Et Dieu lui dit un verdict terrible. Il lui dit, tu es un insensé. Tu manques de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, pas demain ni après-demain, cette nuit même. Dans 2 Rois 20, verset 1, il y a un texte étrange qui nous est rapporté. C'est Isaïe, le prophète, à qui Dieu dit d'aller voir le roi Ézéchias et de lui dire la chose suivante. Donne à tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Imaginez un instant que Dieu vous envoie un tel télégramme. Hé Claude, règle tes affaires, transfère le dossier, fais ton testament, règle la succession, car tu vas mourir. Et pour que ça soit bien compris, il est marqué, et tu ne vivras plus. Imaginez que Dieu vous dise cela. Quelles seraient vos nouvelles priorités ? Quels seraient peut-être les ponts que vous brûleriez derrière vous ? Quelles seraient les relations que vous rompriez ? Quelles seraient les démarches de réconciliation que vous entreprendriez ? Et chacun de nous est assis sur une poudrière et nous ne savons pas à quel moment la mort frappe notre propre vie. Félix a dit, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Combien d'hommes et de femmes ont été dans ce lieu, ont entendu les messages, ont entendu des cassettes, vu des DVD, entendu les messages à la radio, à la télé, par Internet. Et puis, ils ont écouté. Oui, ils ont écouté. Touché, ils pourront me dire, j'ai été touché, pasteur. Pasteur Claude, ton message m'a fait du bien. Sam, Jean-Marie, ton message m'a fait du bien. Bertrand, Christian, m'avait encouragé. Papa Jean, ça m'a édifié. Touché. mais pas changé. Touché, mais pas changé. Je voulais ce soir simplement vous dire que il y a une éternité éternelle, c'est drôlement long, hein, qui nous attend. Alors quand on est du bon côté, c'est très bien. Quand on est du mauvais côté, c'est plutôt mal barré. Hein. Et c'est drôlement long. Et il n'y a même pas de lieu intermédiaire où on pourrait se racheter de ce qu'on n'a pas fait, ou de ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, ou du mal qu'on a fait. C'est une fois que les yeux se ferment, dit les évangiles, c'est décidé. Ou c'est bon, ou c'est mauvais. Mais Dieu nous aime. Et il est venu. Il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque, qui que vous soyez, peut-être vous ne ressemblez pas du tout à Félix. Peut-être que c'est quelqu'un d'apparemment bon, pas parfait, certes, mais pas trop mauvais quand même. Eh bien, le pas trop mauvais n'est pas suffisant pour être sauvé. Il vous faut passer par celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Il faut décider aujourd'hui. Aujourd'hui est le seul moment convenable. Hébreux 4, verset 7 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il y a des aujourd'hui, il y a des rendez-vous maintenant, aujourd'hui, avec Dieu qu'il ne faut pas rater. Je ne suis pas là à essayer de vous faire peur ou de vous chauffer l'enfer pour que vous alliez plus vite au ciel. Mais il y a une réalité. Et régulièrement, on fait des funérailles et chaque fois que je suis devant un cercueil, je me dis, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Lundi passé, nous avons enterré Berthe. J'ai croisé Berthe de nombreuses fois. À 86 ans, Berthe s'est décidée pour Jésus. À 87 ans, elle s'est fait baptiser. À 87 ans et demi, à l'évangélisation, à Yezing, elle distribue des traités dans son village de Wittersdorf. 87 ans. Que personne vienne dire ce soir, moi, je suis trop vieux, je ne change plus de religion. Ça, c'est une excuse. Et comme le dit le mot excuse, c'est ex causa. C'est hors de la juste cause. De la vraie cause. La vraie cause, c'est qu'on n'avait pas envie de vous décider. Et Berthe a continué. Et elle lisait sa Bible avec une grosse loupe. Elle avait une grande Bible, la plus grande possible. Chaque fois que je venais, elle l'avait ouverte, elle l'avait lue. Et ensemble, on parlait de la Bible et du psaume préféré, le psaume 23. Ah, ce psaume du bon berger. Le bon berger, elle l'avait dans la tête. Hein. Parce que je l'ai visité à la fin de ses jours à l'hôpital. Et alors ensemble, on récitait le bon berger. Et voyez-vous, 15 jours de cela, en pleine nuit, alors que personne ne s'y attendait, le Seigneur l'a cherché. Son corps, on l'a enterré, mais je sais que son âme est auprès du Seigneur. Que son âme est auprès du Seigneur. Alors, plaise à Dieu, mesdames, que vous atteigniez tous un âge honorable comme celui de Berthe. Mais vous le savez comme moi, ce n'est pas évident que tout le monde l'atteigne. Alors, soyons prêts. Voyez-vous, montrer de l'intérêt ne suffira pas. Félix était intéressé, il était même instruit, une certaine connaissance des doctrines chrétiennes. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Il ne s'est jamais décidé pour le Seigneur. Le salut n'est pas pour ceux qui en ont besoin. Le salut est pour ceux qui le veulent. Nous en avons tous besoin. Mais ne l'auront que ceux qui l'auront voulu vraiment. Amen. La connaissance, les infos ne suffiront pas. Félix n'a jamais rien décidé. Quand j'aurai le temps, comme un jeune homme riche. Comme la foule de juifs qui a suivi Jésus, mais qui s'est contentée de l'évangile des petits pains. Donne-moi, Seigneur, Oui, donne-moi un miracle. Oui, sauve-moi. Oui, fais-moi du bien, Seigneur. Oui, guéris-moi, Seigneur. Oui, donne-moi un travail, Seigneur. Donne-moi un bon époux, une bonne épouse. Merci, Seigneur. Et après, au revoir, Seigneur. À la prochaine. Au prochain problème. Et Jésus n'est que la roue de secours. Il n'a jamais été le pilote de la vie, de ma vie. Et même des fois, il se passe des choses terribles. Il y a des croyants qui ont donné leur vie à Jésus, où Jésus avait le volant en main, mais qui, au moment donné, ont repris le volant. Ils ont repris le volant. Le texte de Timothée, le deuxième de Timothée, Paul nous parle d'hommes qui, à un temps, ont connu le Seigneur, qui, à un temps, ont marché avec lui. Et il les cite, Hymen, Phygèle, Hermogène, Philètre, des hommes qui ont marché avec Dieu. Même Démas, un proche collaborateur. En 2 Timothée, il est marqué que Démas avait abandonné Paul. Paul dira avec tristesse, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et je voulais ce soir peut-être un instant parler aux croyants. Je suis des fois effaré de ce qui se passe dans les foyers. Pas partout certainement. Et merci Seigneur. Et gloire à Dieu pour les vies qui vont bien. Gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui marchent droit, qui sont forts dans le Seigneur. Mais j'en vois aussi d'autres des fois où c'est terrible ce qui arrive. Et j'aimerais vous dire que ce soir est un temps de choix. N'attends pas demain. N'attends pas demain. À force de t'endurcir, à force de refuser d'entendre, à force de reporter l'aujourd'hui à demain et après-demain, tu risques de t'endurcir et finalement de te perdre. Écoutez bien ce que dit Hébreux 3, 13. Il est dit là, exhortez-vous les uns les autres, exhortez-vous, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui, encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Le péché vous trompe. Le péché nous trompe en tant que chrétien et il peut nous endurcir et nous rendre insensibles à la voix de Dieu. J'aimerais terminer en disant la chose suivante. Dieu nous laisse libres. Dieu n'a pas coincé Félix. Il n'est pas obligé, il a été patient avec lui, il lui a parlé, parlé, reparlé. Mais un jour ou l'autre, les temps ont changé. Félix était démis de ses fonctions, un autre est arrivé. Et voilà que la présence d'un apôtre Paul s'est évaporée en un instant. Aujourd'hui, le temps de choisir. Ne dites pas quand j'aurai le temps. Félix était un homme fourbe, cruel et corrompu, incompétent mais aimé de Dieu. Et parce que Dieu l'a aimé, il lui a amené le meilleur des évangélistes. Amen. Le meilleur des évangélistes. Dieu a investi chez Félix. Félix était un homme instruit à qui Dieu adressait le message vibrant de l'évangile par le meilleur des prédicateurs. Mais Félix, comme la plupart des gens, une multitude de foules, eh bien, n'a jamais pris de décision pour Christ et n'a jamais réglé sa vie devant Dieu. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Félix n'a jamais pris au sérieux cet aujourd'hui et ce maintenant. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, aujourd'hui, ce soir, frère, sœur, si tu marches sur deux chemins ce soir, je t'en supplie, décide-toi de redresser la barre. Cher ami, si tu ne connais pas le Seigneur, ce soir, nous allons t'inviter à le rencontrer. Aujourd'hui, aujourd'hui. Voyez-vous, je me suis rendu compte au fil du temps, si on lit les textes des évangiles, il y a une réalité sérieuse qui dit que plus on refuse d'écouter, plus on s'endurcit. Et plus on est vulnérable face à la séduction du péché. Ce soir, je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un de profondément amoureux de votre âme qui vous parle, c'est Dieu lui-même. Peut-être ai-je été maladroit dans mon expression, que sais-je, prenez ce qui est bon, prenez ce qui est juste. Mais ce soir, je vous en supplie, prenez une décision. Et prenez la bonne décision. Amen. Prions ensemble. Sam, je peux t'inviter à venir prier, s'il te plaît.
Fermons nos yeux. La parole de Dieu vous a exhorté à répondre aujourd'hui. Quelqu'un disait un jour, la route demain mène à la ville jamais. La route demain mène à la ville jamais. Dès qu'on se dit demain j'y penserai, vous pouvez être certain que ça se termine toujours par jamais. Ce soir, au travers de mon frère Claude, vous avez été exhorté, invité à venir ou à revenir vers celui qui veut être le pilote de votre vie. Pendant que nos yeux sont fermés, nous allons tout d'abord prier. Père, nous te bénissons parce qu'en Jésus nous avons un merveilleux Sauveur. Nous te bénissons parce que lorsqu'il est, lui, dans la barque, même dans la tempête, la barque est en sécurité. Ce soir, aide les uns les autres à s'approcher ou à se rapprocher de toi. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon et comme, Seigneur, cela nous a été dit, tu es amoureux de nos âmes. Tu nous aimes profondément. Et cet amour a été jusqu'au sacrifice de la croix. C'est pourquoi, eh bien, je te bénis de ce que par ton esprit, les paroles qui ont été dites ce soir deviennent vivantes dans les cœurs. Fais du bien aux uns et aux autres. Interpelle les uns les autres. Convainc, Saint-Esprit, chacun d'entre nous, afin que cette parole porte du fruit et du fruit qui demeure, pendant que nos yeux sont fermés. S'il y a au milieu de nous une seule personne, voire deux, peut-être qu'il y a 10 personnes, 15, 20, je ne sais pas, mais qui désire s'approcher de Christ, désire lui dire, je veux que tu prennes la direction de ma vie. Alors que nos yeux sont fermés, alors que nous sommes tous dans le recueillement, même si vous êtes là pour la première fois, fermer ses yeux est à la portée de chacun. Se recueillir et réfléchir est à la portée de chacun. Que ceux qui désirent s'approcher de Christ, pour lui dire simplement, je veux te remettre ma vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors c'est le moment. Pas demain, maintenant. J'aimerais vous inviter à lever votre main en signe de votre décision. Votre main levée signifie oui, je le désire.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.